Chères auditrices et auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Pour cette seconde émission de septembre 2009, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Jeunesse. Nous terminerons cette émission par divers communiqués de nos partenaires, ainsi que l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. C'est donc avec grand plaisir que nous donnons la parole à notre sœur Gisèle pour la suite du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 4 traitant du rôle de la science dans la Genèse, des points 1 à 9.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 4, rôle de la science dans la Genèse, point 1. L'histoire de l'origine de presque tous les anciens peuples se confond avec celle de leur religion. C'est pour cela que leurs premiers livres ont été des livres religieux. Et comme toutes les religions se lient au principe des choses, qui est aussi celui de l'humanité, elles ont donné sur la formation et l'arrangement de l'univers des explications en rapport avec l'état des connaissances du temps et de leurs fondateurs. Il en est résulté que les premiers livres sacrés ont été en même temps les premiers livres de science, comme ils ont été longtemps l'unique code des lois civiles. Point 2. Dans les temps primitifs, les moyens d'observation étant nécessairement très imparfaits, les premières théories sur le système du monde devaient être entachées d'erreurs grossières. Mais ces moyens eussent-ils été aussi complets qu'ils le sont aujourd'hui? Les hommes n'auraient pas su s'en servir. Il ne pouvait d'ailleurs être que le fruit du développement de l'intelligence et de la connaissance successive des lois de la nature. À mesure que l'homme s'est avancé dans la connaissance de ces lois, il a pénétré les mystères de la création et rectifié les idées qu'il s'était faites sur l'origine des choses. Point 3. L'homme a été impuissant à résoudre le problème de la création jusqu'au moment où la clé lui a été donnée par la science. Il a fallu que l'astronomie lui ouvrit les portes de l'espace infini et lui permit d'y plonger ses regards. Que, par la puissance du calcul, il put déterminer avec une précision rigoureuse le mouvement, la position, le volume, la nature et le rôle des corps célestes. Que la physique lui révéla les lois de la gravitation, de la chaleur, de la lumière et de l'électricité. Que la chimie lui enseigna les transformations de la matière et la minéralogie les matériaux qui forment l'écorce du globe. Que la géologie lui apprit à lire dans les couches terrestres la formation graduelle de ce même globe. La botanique, la zoologie, la paléontologie, l'anthropologie devaient l'initier à la filiation et à la succession des êtres organisés. Avec l'archéologie, il a pu suivre les traces de l'humanité à travers les âges. Toutes les sciences, en un mot, se complétant les unes par les autres, devaient apporter leur contingent indispensable pour la connaissance de l'histoire du monde. À leur défaut, l'homme n'avait pour guide que ses premières hypothèses. Aussi, avant que l'homme fût en possession de ces éléments d'appréciation, tous les commentateurs de la Genèse, dont la raison se heurtait à des impossibilités matérielles, tournaient-ils dans un même cercle sans pouvoir en sortir? Ils ne l'ont pu que lorsque la science a ouvert la voie, en faisant brèche dans le vieil édifice des croyances, et alors tout a changé d'aspect. Une fois le fil conducteur trouvé, les difficultés se sont promptement aplanies. Au lieu d'une genèse imaginaire, on a eu une genèse positive et en quelque sorte expérimentale. Le champ de l'univers s'est étendu à l'infini. On a vu la Terre et les astres se former graduellement selon des lois éternelles et immuables, qui témoignent bien mieux de la grandeur et de la sagesse de Dieu qu'une création miraculeuse sortie tout à coup du néant, comme un changement à vue par une idée subite de la divinité après une éternité d'inaction. Puisqu'il est impossible de concevoir la Genèse sans les données fournies par la science, on peut dire en toute vérité que la science est appelée à constituer la véritable Genèse d'après les lois de la nature. Point 4. Au point où elle est arrivée au XIXe siècle, la science a-t-elle résolu toutes les difficultés du problème de la Genèse. Non, assurément, mais il est incontestable qu'elle en a détruit sans retour toutes les erreurs capitales et qu'elle en a posé les fondements les plus essentiels sur des données irrécusables. Les points encore incertains ne sont, à proprement parler, que des questions de détail dont la solution, quelle qu'elle soit dans l'avenir, ne peut préjudicier à l'ensemble. D'ailleurs, malgré toutes les ressources dont elle a pu disposer, il lui a manqué jusqu'à ce jour un élément important sans lequel l'œuvre ne saurait jamais être complète. Point 5. De toutes les Genèses antiques, celle qui se rapproche le plus des données scientifiques modernes, malgré les erreurs qu'elle renferme et qui sont aujourd'hui démontrées jusqu'à l'évidence, c'est incontestablement celle de Moïse. Quelques-unes de ces erreurs sont même plus apparentes que réelles et proviennent soit de la fausse interprétation de certains mots, dont la signification primitive s'est perdue en passant de langue en langue par la traduction, ou dont l'acception a changé avec les mœurs des peuples, soit de la forme allégorique particulière au style oriental et dont on a pris la lettre au lieu d'en chercher l'esprit. Point 6. La Bible contient évidemment des faits que la raison, développée par la science, ne saurait accepter aujourd'hui, et d'autres qui semblent étranges et répugnent parce qu'ils se rattachent à des mœurs qui ne sont plus les nôtres. Mais, à côté de cela, il y aurait de la partialité à ne pas reconnaître qu'elle renferme de grandes et belles choses. L'allégorie y tient une place considérable, et sous ce voile, elle cache des vérités sublimes qui apparaissent si l'on cherche le fond de la pensée, car alors l'absurde disparaît. Pourquoi donc n'a-t-on pas levé ce voile plus tôt? C'est, d'une part, le manque de lumière que la science et une saine philosophie pouvaient seules donner, et de l'autre, le principe de l'immutabilité absolue de la foi, conséquence d'un respect trop aveugle pour la lettre, sous lequel la raison devait s'incliner, et par suite la crainte de compromettre l'échafaudage de croyances bâties sur le sens littéral. Ces croyances, partant d'un point primitif, on a craint que, si le premier anneau de la chaîne venait à se rompre, toutes les mailles du filet ne finissent par se séparer. C'est pourquoi on a fermé les yeux quand même. Mais fermer les yeux sur le danger, ce n'est pas l'éviter. Quand un bâtiment fléchit, n'est-il pas plus prudent de remplacer de suite les mauvaises pierres par de bonnes, plutôt que d'attendre, par respect pour la vieillesse de l'édifice, que le mal soit sans remède et qu'il faille le reconstruire de fond en comble? Point 7. La science, en portant ses investigations jusque dans les entrailles de la terre et la profondeur des cieux, a donc démontré d'une manière irrécusable les erreurs de la Genèse mosaïque prises à la lettre et l'impossibilité matérielle que les choses se soient passées ainsi qu'elles y sont textuellement rapportées. Elle a, par cela même, porté une atteinte profonde à des croyances séculaires. La foi orthodoxe s'en est émue, parce qu'elle a cru voir sa pierre d'assise enlevée. Mais qui devait avoir raison? De la science marchant prudemment et progressivement sur le terrain solide des chiffres et de l'observation, sans rien affirmer avant d'avoir la preuve en main, ou d'une relation écrite à une époque où les moyens d'observation manquaient absolument? Qui doit l'emporter en fait compte? De celui qui dit que 2 et 2 font 5 et refuse de vérifier, ou de celui qui dit que 2 et 2 font 4 et le prouve? Point 8. Mais, alors, dit-on, si la Bible est une révélation divine, Dieu s'est donc trompé? Si elle n'est pas une révélation divine, elle n'a plus d'autorité, et la religion s'écroule, faute de base. De deux choses l'une, ou la science a tort, ou elle a raison. Si elle a raison, elle ne peut faire qu'une opinion contraire soit vraie. Il n'y a pas de révélation qui puisse l'emporter sur l'autorité des faits. Incontestablement Dieu, qui est toute vérité, ne peut induire les hommes en erreur, ni sciemment ni insciemment, sans quoi il ne serait pas Dieu. Si donc les faits contredisent les paroles qui lui sont attribuées, il en faut conclure logiquement qu'il ne les a pas prononcées ou qu'elles ont été prises à contresens. Si la religion souffre en quelque partie de ces contradictions, le tort n'en est point à la science, qui ne peut faire que ce qui est, ne soit pas, mais aux hommes d'avoir fondé prématurément des dogmes absolus, dont ils ont fait une question de vie ou de mort, sur des hypothèses susceptibles d'être démenties par l'expérience. Il est donc des choses au sacrifice desquelles il faut se résigner, bon gré mal gré, quand on ne peut pas faire autrement. Quand le monde marche, la volonté de quelques-uns ne pouvant l'arrêter, le plus sage est de le suivre et de s'accommoder avec le nouvel état de choses plutôt que de se cramponner au passé qui s'écroule, au risque de tomber avec lui. Point 9. Fallait-il, par respect pour des textes regardés comme sacrés, imposer silence à la science? C'eût été chose aussi impossible que d'empêcher la terre de tourner. Les religions, quelles qu'elles soient, n'ont jamais rien gagné à soutenir des erreurs manifestes. La mission de la science est de découvrir les lois de la nature. Or, comme ces lois sont l'œuvre de Dieu, elles ne peuvent être contraires aux religions fondées sur la vérité. Jeter l'anathème au progrès comme attentatoire à la religion, c'est le jeter à l'œuvre même de Dieu. C'est de plus peine inutile, car tous les anathèmes du monde n'empêcheront pas la science de marcher et la vérité de se faire jour. Si la religion refuse de marcher avec la science marche toute seule.
Poursuivons notre lecture du jour par le 4e chapitre de la Genèse, traitant du rôle de la science dans la Genèse, des points 10 à 17.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 4, rôle de la science dans la Genèse, suite, point 10. Les religions stationnaires peuvent seules redouter les découvertes de la science. Ces découvertes ne sont funestes qu'à celles qui se laissent distancer par les idées progressives en s'immobilisant dans l'absolutisme de leurs croyances. Elles se font en général une idée si mesquine de la divinité qu'elles ne comprennent pas que s'assimiler les lois de la nature révélées par la science, c'est glorifier Dieu dans ses œuvres. Mais dans leur aveuglement, elles préfèrent en faire hommage à l'esprit du mal. Une religion qui ne serait sur aucun point en contradiction avec les lois de la nature n'aurait rien à redouter du progrès et serait invulnérable. Point 11. La Genèse comprend deux parties. L'histoire de la formation du monde matériel et celle de l'humanité considérée dans son double principe corporel et spirituel. La science s'est bornée à la recherche des lois qui régissent la matière. Dans l'homme même, elle n'a étudié que l'enveloppe charnelle. Sous ce rapport, elle est arrivée à se rendre compte, avec une précision incontestable, des principales parties du mécanisme de l'univers et de l'organisme humain. Sur ce point capital, elle a donc pu compléter la Genèse de Moïse ayant rectifié les parties défectueuses. Mais l'histoire de l'homme, considérée comme être spirituel, se rattache à un ordre spécial d'idées qui n'est pas du domaine de la science proprement dite, et dont celle-ci, par ce motif, n'a pas fait l'objet de ses investigations. La philosophie, qui a plus particulièrement ce genre d'études dans ses attributions, n'a formulé sur ce point que des systèmes contradictoires, depuis la spiritualité pure jusqu'à la négation du principe spirituel et même de Dieu sans autre base que les idées personnelles de leur auteur. Elle a donc laissé la question indécise, faute d'un contrôle suffisant. Point 12. Cette question, cependant, est pour l'homme la plus importante, car c'est le problème de son passé et de son avenir. Celle du monde matériel ne le touche qu'indirectement. Ce qu'il lui importe avant tout de savoir, c'est d'où il vient, où il va, s'il a déjà vécu et s'il vivra encore, et quel sort lui est réservé. Sur toutes ces questions, la science est muette. La philosophie ne donne que des opinions qui concluent en sens diamétralement opposé. Mais, au moins, elle permet de discuter, ce qui fait que beaucoup de gens se rangent de son côté, de préférence à celui de la religion, qui ne discute pas. Point 13. Toutes les religions sont d'accord sur le principe de l'existence de l'âme, sans toutefois le démontrer. Mais elles ne s'accordent ni sur son origine, ni sur son passé, ni sur son avenir, ni surtout, ce qui est l'essentiel, sur les conditions d'où dépend son sort futur. Elles font, pour la plupart, de son avenir, un tableau imposé à la croyance de leurs adeptes, qui ne peut être accepté que par la foi aveugle, mais ne peut supporter un examen sérieux. La destinée qu'elles font à l'âme étant liée dans leurs dogmes aux idées que l'on se faisait du monde matériel et du mécanisme de l'univers dans les temps primitifs, est inconciliable avec l'état des connaissances actuelles. Ne pouvant donc que perdre à l'examen et à la discussion, elles trouvent plus simple de proscrire l'un et l'autre. Point 14. De ces divergences touchant l'avenir de l'homme sont nés le doute et l'incrédulité. Cependant, l'incrédulité laisse un vide pénible. L'homme envisage avec anxiété l'inconnu où il doit tôt ou tard entrer fatalement. L'idée du néant le glace. Sa conscience lui dit qu'au-delà du présent, il y a pour lui quelque chose. Mais quoi? Sa raison développée ne lui permet plus d'accepter les histoires dont on a bercé son enfance, de prendre l'allégorie pour la réalité. Quel est le sens de cette allégorie? La science a déchiré un coin du voile, mais elle ne lui a pas révélé ce qu'il lui importe le plus de savoir. Il interroge en vain. Rien ne lui répond d'une manière péremptoire et propre à calmer ses appréhensions. Partout, il trouve l'affirmation se heurtant contre la négation, sans preuve plus positive d'une part que de l'autre. De là, l'incertitude. Et l'incertitude sur les choses de la vie future fait que l'homme se rejette avec une sorte de frénésie sur celle de la vie matérielle. Tel est l'inévitable effet des époques de transition. L'édifice du passé s'écroule et celui de l'avenir n'est pas encore construit. L'homme est comme l'adolescent, qui n'a plus la croyance naïve de ses premières années et n'a pas encore les connaissances de l'âge mûr. Il n'a que de vagues aspirations qu'il ne sait pas définir. Point 15. Si la question de l'homme spirituel est restée jusqu'à nos jours à l'état de théorie, c'est qu'on a manqué des moyens d'observation directe qu'on a eu pour constater l'état du monde matériel et le champ est resté ouvert aux conceptions de l'esprit humain. Tant que l'homme n'a pas connu les lois qui régissent la matière et qu'il n'a pu appliquer la méthode expérimentale, il a erré de système en système touchant le mécanisme de l'univers et la formation de la Terre. Il en a été dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique. Pour fixer les idées, on a manqué de l'élément essentiel. La connaissance des lois du principe spirituel. Cette connaissance était réservée à notre époque, comme celle des lois de la matière a été l'œuvre des deux derniers siècles. Point 16. Jusqu'à présent, l'étude du principe spirituel, comprise dans la métaphysique, avait été purement spéculative et théorique. Dans le spiritisme, elle est tout expérimentale. À l'aide de la faculté médianimique, plus développée de nos jours et surtout généralisée et mieux étudiée, l'homme s'est trouvé en possession d'un nouvel instrument d'observation. La médiumnité a été, pour le monde spirituel, ce que le télescope a été pour le monde astral et le microscope pour le monde des infiniment petits. Elle a permis d'explorer, d'étudier, pour ainsi dire, de visu, ses rapports avec le monde corporel. D'isoler, dans l'homme vivant, l'être intelligent de l'être matériel et de les voir agir séparément. Une fois en relation avec les habitants de ce monde, on a pu suivre l'âme dans sa marche ascendante, dans ses migrations, dans ses transformations. On a pu enfin étudier l'élément spirituel. Voilà ce qui manquait aux précédents commentateurs de la Genèse pour la comprendre et en rectifier les erreurs. Point 17. Le monde spirituel et le monde matériel, étant en contact incessant, sont solidaires l'un de l'autre. Tous les deux ont leur part d'action dans la Genèse. Sans la connaissance des lois qui régissent le premier, il serait aussi impossible de continuer une Genèse complète, qu'il l'est à un statuaire de donner la vie à une statue. Aujourd'hui seulement, bien que ni la science matérielle ni la science spirituelle n'aient dit leur dernier mot, l'homme possède les deux éléments propres à jeter la lumière sur cet immense problème. Il fallait de toute nécessité ces deux clés pour arriver à une solution, même approximative. Chapitre 5. Système du monde ancien et moderne. Point 1. L'idée première que les hommes se firent de la Terre, du mouvement des astres et de la constitution de l'univers dut être, dans l'origine, uniquement basée sur le témoignage des sens. Dans l'ignorance des lois les plus élémentaires de la physique et des forces de la nature, n'ayant que leur vue bornée pour moyen d'observation, ils ne pouvaient juger que sur les apparences. En voyant le soleil paraître le matin d'un côté de l'horizon et disparaître le soir du côté opposé, on en conclut naturellement qu'il tournait autour de la Terre, tandis que celle-ci restait immobile. Si l'on eût dit alors aux hommes que c'est le contraire qui a lieu, ils auraient répondu que cela ne se pouvait pas, car, auraient-ils dit, nous voyons le soleil changer de place, et nous ne sentons pas la Terre bouger. Point 2. Le peu d'étendue des voyages, qui dépassait alors rarement les limites de la tribu ou de la vallée, ne pouvait permettre de constater la sphéricité de la Terre. Comment d'ailleurs supposer que la Terre puisse être une boule? Les hommes n'auraient pu se maintenir que sur le point le plus élevé, et en la supposant habitée sur toute la surface, comment auraient-ils pu vivre dans l'hémisphère opposé, la tête en bas et les pieds en haut? La chose eût paru encore moins possible avec un mouvement de rotation. Quand on voit encore de nos jours, où l'on connaît la loi de gravitation, des gens relativement éclairés ne pas se rendre compte de ce phénomène, on ne doit pas s'étonner que les hommes des premiers âges ne l'aient pas même soupçonné.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre le chapitre 5, traitant des systèmes du monde ancien et moderne, des points 2 à 12.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 5, système du monde ancien et moderne, suite du point 2. La Terre était donc pour eux une surface plate, circulaire comme une meule de moulin, s'étendant à perte de vue dans la direction horizontale. De là l'expression encore usitée, aller au bout du monde. Ses limites, son épaisseur, son intérieur, sa face inférieure, ce qu'il y avait au-dessous, c'était l'inconnu. Remarque, la mythologie hindoue enseignait que l'astre du jour se dépouillait le soir de sa lumière et traversait le ciel pendant la nuit avec une face obscure. La mythologie grecque représentait le char d'Apollon traîné par 4 chevaux. Anaximandre, de Milet, soutenait, au rapport de Plutarque, que le soleil était un chariot rempli d'un feu très vif qui se serait échappé par une ouverture circulaire. Épicure aurait, selon les uns, émis l'opinion que le soleil s'allumait le matin et s'éteignait le soir dans les eaux de l'océan. D'autres pensent qu'il faisait de cet astre une pierre ponce chauffée à l'état d'incandescence. Anaxagore le regardait comme un fer chaud de la grandeur du Péloponnèse. Singulière remarque. Les anciens étaient si invinciblement portés à considérer la grandeur apparente de cet astre comme réel, qu'ils persécutèrent ce philosophe téméraire pour avoir attribué un tel volume au flambeau du jour, et qu'il fallut toute l'autorité de Périclès pour le sauver d'une condamnation à mort, et commuer celle-ci en une sentence d'exil. Voir Flammarion, Études et lectures sur l'astronomie, page 6. Quand on voit de telles idées émises au 5e siècle avant l'ère chrétienne, au temps le plus florissant de la Grèce, on ne peut s'étonner de celles que se faisaient les hommes des premiers âges sur le système du monde. Fin de la remarque. Point 3. Le ciel, apparaissant sous forme concave, était, selon la croyance vulgaire, une voutrielle dont les bords inférieurs reposaient sur la terre et en marquaient les confins. Vaste dôme dont l'air remplissait toute la capacité. Sans aucune notion de l'infini, de l'espace, incapable même de le concevoir, les hommes se figuraient cette voûte formée d'une matière solide. De là le nom de firmament, qui a survécu à la croyance et qui signifie ferme, résistant. du latin firmamentum, dérivé de firmus et du grec herma, hermatos, ferme, soutien, support, point d'appui. Point 4. Les étoiles, dont il ne pouvait soupçonner la nature, étaient de simples points lumineux, plus ou moins gros, attachés à la voûte comme des lobes suspendus, disposés sur une seule surface et par conséquent, toutes à la même distance de la Terre, de la même manière qu'on les représente dans l'intérieur de certaines coupoles peintes en bleu pour figurer l'azur des cieux. Bien qu'aujourd'hui les idées soient tout autres, l'usage des anciennes expressions s'est conservé. On dit encore, par comparaison, la voûte étoilée, sous la calotte du ciel. Point 5. La formation des nuages par l'évaporation des eaux de la terre était alors également inconnue. Il ne pouvait venir à la pensée que la pluie qui tombe du ciel eût son origine sur la terre, d'où l'on ne voyait pas l'eau remonter. De là, la croyance à l'existence des eaux supérieures et des eaux inférieures, des sources célestes et des sources terrestres, des réservoirs placés dans les hautes régions, supposition qui s'accordait parfaitement avec l'idée d'une voûte capable de les maintenir. Les eaux supérieures, s'échappant par les fissures de la voûte, tombaient en pluie, et selon que ces ouvertures étaient plus ou moins larges, la pluie était douce ou torrentielle et diluvienne. Point 6. L'ignorance complète de l'ensemble de l'univers et des lois qui le régissent, de la nature, de la constitution et de la destination des astres, qui semblait d'ailleurs si petit comparativement à la Terre, dut nécessairement faire considérer celle-ci comme la chose principale, le but unique de la création, et les astres comme des accessoires créés uniquement à l'intention de ses habitants. Ce préjugé s'est perpétué jusqu'à nos jours, malgré les découvertes de la science qui ont changé, pour l'homme, l'aspect du monde. Combien de gens croient encore que les étoiles sont des ornements du ciel pour recréer la vue des habitants de la terre? Point 7. On ne tarde pas à s'apercevoir du mouvement apparent des étoiles qui se meuvent en masse d'Orient en Occident, se levant le soir et se couchant le matin, en conservant leurs positions respectives. Cette observation n'eut pendant longtemps d'autres conséquences que de confirmer l'idée d'une voûte solide entraînant les étoiles dans son mouvement de rotation. Ces idées premières, idées naïves, ont fait pendant de longues périodes séculaires le fond des croyances religieuses et ont servi de base à toutes les cosmogonies anciennes. Point 8. Plus tard, on comprit, par la direction du mouvement des étoiles et leur retour périodique dans le même ordre, que la voûte céleste ne pouvait être simplement une demi-sphère posée sur la Terre, mais bien une sphère entière, creuse, au centre de laquelle se trouvait la Terre, toujours plate ou tout au plus convexe, et habitée seulement sur la face supérieure. C'était déjà un progrès. Mais sur quoi était posée la Terre? Il serait inutile de rapporter toutes les suppositions ridicules enfantées par l'imagination, depuis celle des Indiens qui la disaient portée par 4 éléphants blancs et ceux-ci sur les ailes d'un immense vautour. Les plus sages avouaient qu'ils n'en savaient rien. Point 9. Cependant, une opinion généralement répandue dans les théogonies païennes placées dans les lieux bas, autrement dit dans les profondeurs de la terre ou au-dessous, on ne savait trop, le séjour des réprouvés, appelé enfer, c'est-à-dire lieu inférieur, et dans les lieux hauts, par-delà la région des étoiles, le séjour des bienheureux. Le mot enfer s'est conservé jusqu'à nos jours, quoiqu'il ait perdu sa signification étymologique depuis que la géologie a délogé le lieu des supplices éternels des entrailles de la terre, et que l'astronomie a démontré qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'espace infini. Point 10. Sous le ciel pur de la Chaldée, de l'Inde et de l'Égypte, berceau des plus antiques civilisations, on put observer le mouvement des astres avec autant de précision que le permettait l'absence d'instruments spéciaux. On vit d'abord que certaines étoiles avaient un mouvement propre indépendant de la masse, ce qui ne permettait pas de supposer qu'elles fussent attachées à la voûte. On les appela étoiles errantes ou planètes pour les distinguer des étoiles fixes. On calcula leur mouvement et leur retour périodique. Dans le mouvement diurne de la sphère étoilée, on remarqua l'immobilité de l'étoile polaire autour de laquelle les autres décrivaient, en 24 heures, des cercles obliques parallèles plus ou moins grands, selon leur éloignement de l'étoile centrale. Ce fut le premier pas vers la connaissance de l'obliquité de l'axe du monde. De plus longs voyages permirent d'observer la différence des aspects du ciel, selon les latitudes et les saisons. L'élévation de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon, variant avec la latitude, mit sur la voie de la rondeur de la Terre. C'est ainsi que, peu à peu, on se fit une idée plus juste du système du monde. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, Thalès de Milet, en Asie mineure, connut la sphéricité de la Terre, l'obliquité de l'écliptique et la cause des éclipses. Un siècle plus tard, Pythagore de Samos découvre le mouvement diurne de la Terre sur son axe, son mouvement annuel autour du Soleil, et rattache les planètes et les comètes au système solaire. 160 ans avant Jésus-Christ, Hipparque d'Alexandrie, en Égypte, invente l'astrolabe, calcule et prédit les éclipses, observe les taches du Soleil, détermine l'année tropique, la durée des révolutions de la Lune. Quelque précieuses que fussent ces découvertes pour le progrès de la science, elles furent près de 2000 ans à se populariser. Les idées nouvelles, n'ayant alors pour se propager que de rares manuscrits, restaient le partage de quelques philosophes qui les enseignaient à des disciples privilégiés. Les masses, qu'on ne songeait guère à éclairer, n'en profitaient nullement, et continuait à se nourrir des vieilles croyances. Point 11. Vers l'an 140 de l'ère chrétienne, Ptolémée, un des hommes les plus illustres de l'école d'Alexandrie, combinant ses propres idées avec les croyances vulgaires et quelques-unes des plus récentes découvertes astronomiques, composa un système qu'on peut appeler mixte, qui porte son nom et qui, pendant près de 15 siècles, fut seul adopté dans le monde civilisé. Selon le système de Ptolémée, la Terre est une sphère au centre de l'univers. Elle se composait des quatre éléments, la Terre, l'eau, l'air et le feu. C'était la première région, dite élémentaire. La seconde région, dite éthérée, comprenait 11 cieux, ou sphères concentriques tournant autour de la Terre, savoir le ciel de la Lune, ceux de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, des étoiles fixes, du premier cristallin, sphère solide transparente, du second cristallin et enfin du premier mobile qui donnait le mouvement à tous les cieux inférieurs et leur faisait faire une révolution en 24 heures. Au-delà des 11 cieux était l'Empyrée, séjour des bienheureux, ainsi nommé du grec pyr ou pur, qui signifie feu, parce qu'on croyait cette région resplendissante de lumière comme le feu. La croyance à plusieurs cieux superposés a longtemps prévalu, mais on variait sur le nombre. Le septième était généralement regardé comme le plus élevé, de là l'expression « être ravi au septième ciel ». Saint Paul a dit qu'il avait été élevé au troisième ciel. Indépendamment du mouvement commun, les astres avaient, selon Ptolémée, des mouvements propres, plus ou moins grands selon leur éloignement du centre. Les étoiles fixes faisaient une révolution en 25 816 ans. Cette dernière évaluation dénote la connaissance de la précession des équinoxes qui s'accomplit en effet en 25 868 ans.
Nous voici arrivés à la seconde partie de cette émission, celle où nous répondons, habituellement, aux questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou notre répondeur téléphonique. Actuellement, nos réponses sont en préparation. Nous donnerons suite à vos questions lors d'une prochaine émission. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Cette année, la Société d'études psychiques de Nancy organise une journée spéciale autour du thème de l'après-mort. Elle aura lieu le dimanche 27 septembre 2009 à la salle Rograph, 13 rue des Ponts à Nancy, de 9h à 18h. La participation aux frais sera de 15€. Pour renseignements et réservations, merci de bien vouloir prendre contact par téléphone en formant depuis la France le 03 83 00 00 00 ou via le site www.sepnancy.org. Nous voici arrivés à l'agenda des activités en Belgique et en France. En Belgique tout d'abord. Le dimanche 20 septembre 2009 à 12h30, les responsables du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles vous invitent à leur traditionnel barbecue qu'ils organisent afin de récolter des fonds pour leurs nombreuses activités. Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact avec les responsables du CESAC en formant depuis la Belgique le 02 647 37 85 ou via courriel à l'adresse suivante cesacbruxelles@gmail.com. Le lundi 21 septembre 2009 à 19h30, nos amis du noyau d'études spirit Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles vous invitent à rencontrer M. Sergio Thyssen, conférencier international, pour une conférence sur le problème de l'être, de la destinée et de la douleur. Celle-ci aura lieu en leur siège social, 103 rue d'Albany à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via le 0479 02 45 74 ou via courriel à l'adresse suivante nucleoespirita@hotmail.com. L'entrée sera libre et gratuite pour tous. Le mardi 22 septembre 2009 à 19h30, le même conférencier aura le plaisir de vous présenter une autre conférence sur le thème « Réincarnation et immortalité, la redécouverte de l'âme et la valorisation de l'existence ». Cette dernière aura lieu chez nos amis du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le CESAC, 134 rue Louis Happe à 1040 Bruxelles. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 02 647 37 85 ou par GSM en formant le 0474 762 894 ou via courriel à l'adresse suivante cesacbruxelles@gmail.com. L'entrée sera libre et gratuite pour tous. Aucune conférence n'étant programmée pour le Grand-Duché de Luxembourg, nous passons directement en France. Le samedi 19 septembre 2009 à 20h, l'Institut spirituel psychosique de Calonne-Ricouart présente une conférence sur le thème magnétisme, hypnose et autosuggestion, et ceci dans la salle des fêtes de Calonne-Ricouart. La participation aux frais sera de 3€. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner depuis la France en formant le 03 21 53 62 95. En France toujours, le dimanche 27 septembre 2009, de 9h à 18h, nous vous rappelons que la Société d'études psychiques de Nancy organisera toute une série de conférences sur le thème « La mort et après, et si c'était vrai ?» à la salle Rograph, 13 rue des Ponts à Nancy. Réservation en formant depuis la France le 03 83 00 00 00 ou via le site www.sepnancy.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce, où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.